Voici 5 idées reçues sur le couple, l'amour et la sexualité qui sont souvent colportées à tort. Il est toujours nécessaire de remettre à plat ces croyances erronées, car elles ont tendance à engendrer des comportements anormaux. Je t'invite donc à bien écouter jusqu'au bout, ta santé et celle de ton couple peuvent en dépendre. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur relation de couple et en savoir plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr, en donnant des conseils à travers des articles, des formations et des accompagnements à améliorer votre vie intime et votre vie à deux. 1. Les hommes ont toujours envie de faire l'amour. Une légende urbaine affirme que les hommes auraient toujours envie de faire l'amour, ce qui implique à contrario que ce n'est pas le cas des femmes. Il faut, pour comprendre ce comportement, regarder l'action des hormones chez les deux sexes pour réellement appréhender le fonctionnement de chacun. En effet, ce sont les hormones qui pilotent le mécanisme automatique de notre corps. Chez les hommes, la testostérone est le principal moteur du désir avec le cerveau. Celle-ci est sécrétée depuis l'adolescence jusqu'à un âge très avancé. Un pic de production est rencontré vers 20 ans, puis décroît très doucement ensuite jusqu'à 55 ans environ, pour chuter un peu plus rapidement en fin de vie. De ce point de vue, on peut dire que potentiellement l'homme est susceptible d'être toujours en alerte. Chez la femme, les hormones fonctionnent par cycle ovarien. Ainsi, sur une période moyenne de 28 jours, les femmes vont passer d'une envie proche de zéro à une excitation très forte, souvent d'ailleurs supérieure à celle ressentie par les hommes au moment de l'ovulation. Il est donc vrai qu'en moyenne, les hommes ont souvent plus d'appétit sexuel que les femmes. Mais lorsque celles-ci ont envie, c'est souvent plus fort que celle des hommes. Je t'invite à ce propos à revoir cette vidéo pour de plus amples informations sur l'influence de l'âge avec la sexualité en cliquant ici sur le lien en haut à droite et dans la description. Il faut noter les méfaits de la pilule sur la libido féminine. Elle a sérieusement tendance à la faire drastiquement baisser, quel que soit le moment du cycle. Pour retrouver une bonne libido, il est préférable d'éviter les contraceptifs chimiques. 2. Une femme qui dit non veut en réalité dire oui. Cette idée reçue qui prétend que les femmes sont compliquées, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent et qu'en insistant on obtient finalement un oui, est omniprésente dans la culture occidentale et est fortement cautionnée par le cinéma. Beaucoup trop d'hommes pensent que lorsqu'une femme lui refuse quelque chose par un non, c'est en fait qu'elle souhaite inconsciemment dire oui. À ce moment-là, il va lourdement insister. Ainsi, en s'acharnant dessus, la femme va parfois céder. Pourquoi le fait-elle ? Il y a plusieurs raisons à ce comportement. Tout d'abord, la femme peut être impressionnée par l'insistance de l'homme. Elle peut même avoir un début de peur. Celle-ci pourra engendrer une action de résignation devant un danger supposé plus grave encore que l'acte pourtant refusé. C'est donc une réaction de défense et d'acceptation face à la menace pressentie en cas de désapprobation. Il faut aussi se pencher sur l'héritage passé de nos civilisations. Il y a peu encore, les femmes devaient obtenir l'accord de leur mari pour effectuer certaines actions. Aujourd'hui, dans certaines parties du monde, la femme est considérée comme la propriété d'un homme. Comment veux-tu, dans ces conditions, avoir un libre choix de dire non sans souffrir de pression ressentie ? C'est donc sous la contrainte sociale et culturelle que bien des femmes finissent par se soumettre contre leur volonté à ce qu'elles auraient refusé dans d'autres conditions. Parfois, il arrive aussi que le oui finisse par advenir après maintes refus pour réussir à en terminer et passer à autre chose. On peut apparenter cela à du harcèlement, puisque c'est à l'usure que le consentement est obtenu. D'ailleurs, on ne parle pas ici d'autorisation, mais plutôt d'abdication par épuisement. La fatigue mentale est alors tellement grande, la détresse tellement importante, que finalement, on préfère aller contre ses réelles envies et se laisser aller à la volonté de l'autre. En conclusion, si tu es un homme, tu dois bien te mettre en tête qu'un non n'est pas un oui. Insister de façon plus ou moins lourde ne fait de toi qu'un malotru. La bonne conduite à tenir est d'accepter ce refus. Cela ne voudra pas dire qu'il en sera toujours ainsi lors de ta prochaine requête. Cependant, à ce moment précis, le refus est net et catégorique. 3. L'érection est égale à l'excitation. Voici une autre croyance bien ancrée. C'est celle qui prétend que l'érection est signe d'excitation et son opposé, que le manque d'érection est signe d'un manque d'excitation. Bien sûr, l'une comme l'autre de ces affirmations est totalement fausse. C'est d'ailleurs vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'érection des parties génitales n'est pas nécessairement liée à l'excitation ou au sentiment. En réalité, l'érection est un acte involontaire qui est causé par un relâchement de muscles qui vont alors laisser passer le sang. Celui-ci va remplir les corps caverneux du pénis ou du clitoris et provoquer leurs érections. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces muscles ne sont pas directement contrôlables. Ils réagissent à des ordres du cerveau dans certaines conditions. Il est vrai que l'excitation est souvent la source principale qui va entraîner cette libération, mais pas toujours. Il est en effet possible d'avoir des érections sans aucune excitation. C'est notamment visible chez les hommes au réveil. J'explique ce phénomène dans cette vidéo que je t'invite à revoir en cliquant ici en haut à droite et dans la description. Il existe parfois des moments où l'excitation peut être forte, mais qu'aucune érection ne se manifeste. Petite parenthèse d'ailleurs, l'excitation peut être sensorielle, verbale ou encore imaginaire. Quoi qu'il en soit, cela peut se produire et ne doit jamais remettre en question l'excitation supposée. De la même façon, j'ai déjà entendu des témoignages de femmes victimes de viol qui déclarent avoir ressenti une érection de leur partie génitale sans bien sûr éprouver d'excitation, bien au contraire. Cette confusion les fait énormément culpabiliser car elles ont finalement l'impression qu'elles étaient consentantes de l'acte abject dont elles étaient victimes. J'espère donc maintenant que tu auras bien compris que l'érection ne fonctionnait pas nécessairement en duo avec l'excitation et le désir. 4. En couple, on doit tout le temps être ensemble. Une autre croyance que je rencontre souvent en thérapie est que lorsque l'on est en couple, il faut tout faire ensemble. Alors, j'en profite pour te rappeler que j'aide les couples, mais aussi les personnes individuellement en séance pour résoudre leurs problématiques. Tu peux retrouver ces différents accompagnements sur le site harmoniedescorps.fr dans l'espace dédié. Mais revenons à cette affirmation qui bien sûr n'est pas fondée. Il ne faut en effet pas penser que lorsqu'on se met en couple, alors tout ensuite doit se faire à deux. C'est vrai que s'engager à deux exige quand même de partager de nombreux moments ensemble. Cependant, cela ne doit pas être tout le temps et partout. Bien entendu, pour s'épanouir pleinement, chacun doit pouvoir, lorsqu'il est en couple, équilibrer sa vie en trois parties bien distinctes. La première partie est donc le temps à passer en couple avec l'autre autour d'activités, d'échanges, de câlins et d'amour. Ensuite, il y a le temps social, c'est-à-dire celui qui sert à travailler, à voir sa famille, ses amis, pratiquer une activité à plusieurs, etc. Pendant ce temps, tu le comprendras bien avec l'exemple du travail, c'est rarement un moment que l'on vit à deux. Pour finir, il y a le temps pour soi, qui te permet de te retrouver un peu dans ta bulle pour lire, te divertir, réfléchir, travailler parfois sur des projets personnels, etc. Chacun a besoin de se retrouver plus ou moins longtemps avec lui-même. C'est d'ailleurs souvent vital pour beaucoup. Il suffit en général de s'isoler dans une pièce pour s'adonner à son activité favorite, lecture, broderie, jeux vidéo, etc. pour assouvir ce besoin. Bien évidemment, comme chaque journée ne fait que 24 heures et qu'une semaine ne fait que 7 jours, il faut fréquemment jongler et faire des compromis. Cependant, il est impératif de comprendre que chaque membre du couple a nécessairement besoin de ces trois compartiments de vie pour se sentir épanoui. Donc, si tu es toujours sur le dos de ton ou ta partenaire, il ne faut pas t'étonner qu'au bout d'un moment, la relation semble devenir chaotique. C'est tout simplement que tu n'auras pas permis à ce que chacun réussisse à équilibrer ces trois compartiments. 5. Le préservatif, c'est uniquement avec des inconnus. Je terminerai cette liste des méfaits, des croyances, par celle-ci qui peut grandement nuire à ta santé. Je veux parler de considérer le port du préservatif comme uniquement destiné aux rencontres sexuelles avec des personnes que l'on ne connaît pas ou dont on n'a pas confiance. C'est bien entendu une grossière erreur puisque tu peux très bien connaître quelqu'un qui ne sait pas encore être contaminé par une IST et donc qui pourrait potentiellement te la transmettre. Je te rappelle que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à la regarder de nouveau en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. C'est évidemment exactement pareil avec la confiance, elle ne remplacera jamais un bilan sanguin. Lui seul permet de dire si le préservatif est obligatoire ou s'il peut être omis lors d'un rapport. Même s'il y a des IST plutôt bénignes qui se guérissent de nos jours facilement, il en existe d'autres qui sont incurables et aussi mortelles. Je t'invite donc à la plus extrême prudence. Un autre point important, si tu es en couple et que tu vas voir ailleurs pour des aventures sexuelles extra-conjugales, il te faudra être vigilant ou vigilante. En effet, tu peux contaminer ton ou ta partenaire officiel si tu n'y prends garde. En effet, il ou elle n'aura aucune raison de se méfier et toi, il te sera difficile de souhaiter exiger la capote si d'habitude tu n'en mets pas en couple. Je t'incite donc à fortement faire attention dans tes escapades hors couple légitime et à toujours imposer le préservatif. Je ne sais pas si tu étais bien informé sur ces légendes urbaines qui sont parfois vues sur internet ou entendues. Quoi qu'il en soit, c'est un bon rappel pour chacun. Et surtout, si tu pensais qu'une de ces affirmations était vraie, je t'invite réellement à garder en tête que ce que tu pensais être une vérité est totalement ou partiellement faux. Changer ses croyances, quand elles sont inexactes, fait vraiment évoluer et te permet de devenir une meilleure personne. Je te propose de me dire dans les commentaires quelle légende urbaine te rend dingue et que tu aimerais ne plus jamais voir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedecor.fr, harmoniedecor.fr. Tu recevras alors l'article plus complet, il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.